15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au réveillon de Noël. D'un point de vue nutritionnel, comment concilier plaisir festif tout en limitant les dégâts sur la balance après les fêtes, d'autant que parfois à cette période, des repas en famille, il faut en enchaîner plusieurs. Eh bien, on fera le point avec notre invité, le médecin nutritionniste Arnaud Cocol. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la vitamine D, pourquoi près de la moitié de la population en manque et surtout, en quoi est-elle indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler aujourd'hui des aphtes dans la bouche. Près de 2 Français sur 10 en auront un jour à un moment donné dans leur vie. Pourquoi ? Et surtout, quelles en sont réellement leurs causes ? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la libido masculine quand elle est en berne. Est-ce forcément le signe d'une lassitude dans le couple ? Un homme avec moins de désir ? Est-ce forcément un homme moins amoureux ?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On écoute la première question, c'est celle de Frédéric, 42 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed, Frédéric, 42 ans de Laval. Je vous appelle car j'ai souvent des bleus, souvent sur les cuisses et de temps en temps sur les avant-bras. Et je me posais la question, est-ce que c'est dû à mon type de peau et puis surtout, quelle peut être la provenance ? Merci beaucoup.
Bon alors d'abord Jimmy, un bleu sur la peau, reprenons depuis le début, c'est quoi précisément ?
Alors c'est ce qu'on appelle une ecchymose ou un hématome, c'est la conséquence d'un épanchement de sang qui est lié à une petite hémorragie sous-cutanée. L'exemple que je donne souvent c'est lorsque vous tordez la cheville donc part dans un sens, les ligaments souffrent et puis on détruit des petits vaisseaux qui se mettent à saigner, qui vont s'accumuler et apparaître en sous-cutanée, responsable de cette ecchymose qu'on peut voir. Mais en règle générale, c'est pas très grave.
Donc en général, c'est après un traumatisme. Mais si on marque facilement, il y a donc d'autres causes qui sont possibles. Du coup, ça peut être causé par quoi s'il n'y a pas de choc ?
Oui, il faut se méfier des hématomes spontanés lorsque vraiment on n'a fait aucun traumatisme ni effort, parce qu'ils peuvent révéler une hémopathie, une anomalie, la coagulation, notamment chez les hémophiles. Mais ça, on arrive souvent à le diagnostiquer puisque ça se développe au décours d'accidents hémorragiques. Mais on sait que plus l'âge avance et plus la peau est de moins bonne qualité, on produit moins de graisse et on produit moins de collagène. Et par conséquent, on a une peau qui est de moins bonne qualité et donc on se met à faire des hématomes un peu plus facilement pour des tout petits traumatismes qui d'habitude seraient passés inaperçus. Vous cognez contre une porte et là vous faites un hématome et globalement c'est après 60 ans. Donc Mélanie, vous avez encore un petit peu de marge.
Merci, effectivement. Alors avoir des bleus, vous dites que ça peut être la cause du vieillissement de la peau, mais il n'y a pas aussi peut-être des médicaments qui provoquent ça ?
Oui, exactement. Notamment lorsque vous prenez des anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine, donc ça empêche les plaquettes de s'agréger et ça fluidifie le sang, mais par conséquent on est exposé à un saignement plus important quel qu'il soit. Donc ça peut être lorsqu'on se brosse les dents, mais aussi au niveau de la peau, lorsqu'on prend des anticoagulants dans certaines pathologies. Et puis il y a un médicament souvent qu'on oublie, c'est les corticoïdes. Alors attention, je ne parle pas des corticoïdes qu'on pourrait prendre pendant 3-4 jours pour une laryngite. La prise de corticoïdes sur le long terme entraîne une fragilité cutanée qui est responsable notamment d'hématomes de façon un peu plus spontanée.
Et puis il y a d'autres causes éventuellement à l'apparition de bleus fréquents ?
Oui, notamment certaines carences alimentaires. Alors là, on parle plus de la personne âgée qui serait dénutrie et qui aurait des carences, notamment en vitamine C, puisqu'on sait que ça entraînera une production diminuée de collagène et par conséquent des vaisseaux qui seront un peu plus fragiles et donc qui auront tendance à saigner un peu plus facilement que les autres.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Francis, 46 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai entendu dire que le zinc, c'était bon contre la lutte pour le vieillissement. Et je voulais savoir si vous me conseillez de prendre des cures de temps en temps et puis surtout si c'était bon pour la santé. Merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, la cure de zinc, c'est votre spécialité, je sais bien, donc ça sert à quelque chose ou pas? Notamment, c'est vrai que c'est un complément alimentaire, enfin un oligo-élément qui permet de lutter contre le vieillissement.
Oui, déjà, Mélanie, ne me sous-estimez pas.
Vous êtes très fort en nutrition. Oui. On verra avec le docteur Cocolle tout à l'heure si c'est vrai.
Je serai moins le malin à ce moment-là. Donc, mais si on est un peu plus sérieux, le zinc, c'est un oligo-élément qui est primordial pour la peau. Et donc, d'où cette idée qu'il aurait des propriétés anti-vieillissement. Mais ça a surtout des propriétés lorsqu'on a de l'acné, notamment chez les adolescents. On sait que ça peut diminuer justement cette acné. Mais c'est pas tout. On sait que ça a un effet notamment sur le système nerveux, sur la prostate, le système immunitaire et le processus de cicatrisation. On sait en plus de ça que le zinc aurait un rôle dans la régulation du taux d'insuline dans le sang. Bref, ça ne se limite pas aux effets cutanés qu'on peut connaître.
Bon, et donc, ça a l'air très bien tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite cure de temps en temps pour avoir tous ces bienfaits dont vous venez de parler?
Alors, pourquoi pas? Ce n'est pas nécessaire pour autant. On sait qu'en revanche, chez les adolescents qui auraient des problèmes d'acné, ça pourrait être bénéfique. Et chez les personnes qui ont un régime plutôt végétarien, parce que le zinc d'origine végétale est un peu moins bien assimilé. Donc, on pourrait proposer ponctuellement une petite cure chez ces personnes-là.
Et alors pour les gens qui mangent de tout, qui ne sont pas végétariens comme vous venez de le dire, on est rarement en carence, en tout cas si on mange d'un point de vue équilibré, mais finalement quand même juste pour savoir, on le trouve dans quoi le zinc surtout?
Alors les crustacés, alors c'est bien cette période de l'année puisqu'on va, parler des huîtres exactement.
On en parlera juste après.
On peut en user et en abuser, la viande rouge, surtout le foie, les céréales complètes, le jaune d'œuf, les légumes, surtout le soja, les pommes de terre et les haricots verts, ça donne envie tout ça.
On a fait une bonne cure de zinc grâce à vous. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Francis qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour et aujourd'hui il va nous parler de l'importance de la vitamine D et de l'intérêt d'en prendre en supplémentation en ce moment, en hiver justement. Et puis on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, qui va nous donner tous ses bons conseils pour préparer un repas de réveillon à la fois équilibré tout en se lâchant un peu, vous allez voir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Arnaud Cocolle, qui va nous donner le contenu idéal d'un repas de réveillon conciliant la ligne et le plaisir. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la vitamine D. D'abord, pourquoi en prendre en complément comme ça?
Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est indispensable et pourtant on sait qu'à peu près la moitié de la population en manque. Elle agit au niveau des intestins et des reins pour absorber notamment le calcium et le phosphore pour bien fixer au niveau des os. Ce qui veut donc dire que la vitamine D participe à la croissance osseuse et à contrario, une carence en vitamine D provoque ce qu'on appelle le rachitisme chez l'enfant qui reste rare et des problèmes de perte osseuse, notamment chez les personnes âgées avec un risque de fracture un peu plus important. Mais c'est pas tout, on sait que ça a un rôle important dans d'autres circonstances, parce que des récepteurs à la vitamine D, on en a un peu partout. On en a au niveau du pancréas, on en a au niveau du système cardiovasculaire et neuronal. Et en plus de ça, on sait que pour l'immunité, ça aurait des vertus. On serait un peu moins malade si on prend de la vitamine D, notamment en période d'hiver.
Mais alors tout le monde, du coup, peut et doit en prendre, alors, c'est ça?
Alors tout le monde peut en prendre, mais on sait qu'il y a des populations plus à risque. Alors un, c'est les bébés, les enfants, les femmes enceintes, mais aussi les personnes âgées et notamment celles qui sont en institution car elles vont encore moins bien la lumière du jour. Mais globalement, tout le monde peut en prendre et notamment, on sait que les personnes qui ont une forte pigmentation cutanée, ces personnes qui auraient un régime, notamment alimentaire particulier, qui supprimerait la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, ou ceux qui auraient des problèmes d'absorption intestinale sont plus à risque. Mais en cette période de l'année, prendre une petite vitamine D, ça fait de mal à personne.
Alors quand est-ce qu'on la prend? Maintenant du coup, c'est la bonne période.
Exactement,
là,
c'est au moment où l'exposition au soleil est la plus diminuée et donc c'est le moment au niveau de l'hiver d'en prendre une. Ça permet notamment de lutter contre certaines infections virales et puis parfois chez les patients, ils retrouvent un petit peu d'énergie, donc une ampoule de vitamine D, c'est le moment.
Et qu'est-ce qu'il faut, est-ce que pour savoir justement si on en manque, il faut faire une petite prise de sang pour le doser?
Alors avant on en faisait beaucoup et on se rendait compte que tout le monde était carencé, donc on s'est dit qu'on va arrêter de faire des prises de sang et on va donner à tout le monde.
D'accord.
Et on sait que le dosage de la vitamine D est recommandé si on suspecte réellement le rachitisme dont on a parlé, et puis d'autres pathologies, notamment des pathologies osseuses, ou après une chirurgie, notamment de l'obésité, chez des personnes âgées ou à risque. Bref, on ne va pas faire de dosage de vitamine D exactement, de façon systématique.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Cocolle.
Bonjour Mélanie.
Alors ce soir c'est le réveillon de Noël, mais en fait pendant 15 jours, là pour beaucoup de Français, les repas de famille, ça va s'enchaîner. D'abord, est-ce qu'on sait si cette période de repas gargantuesque là en ce moment, sur plusieurs jours parfois, ça fait vraiment des dégâts sur la balance? En moyenne, on prend combien de kilos pendant les fêtes?
Oui, il y avait une analyse qui avait été faite dans une revue américaine sur, au moment de Thanksgiving.
Ah oui, donc une grande période de fête aussi.
Américaine. Et les Américains prenaient en moyenne à peu près 800 grammes pendant cette fête-là.
Ça va.
Donc ce n'est pas énorme, mais cumulé par le nombre de Thanksgiving que vous allez faire dans votre vie, ça chiffre.
Ah oui, si, surtout si on ne les repère pas effectivement tout de suite derrière. Mais bon, alors en tout cas, à cette heure-là, là, il y a déjà quelques personnes, quand ils font le réveillon chez eux, qui sont déjà en cuisine, peut-être en train de préparer leur réveillon. Est-ce que là, dans l'après-midi, pour ceux qui savent qu'ils vont faire un gros repas ce soir, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qu'on peut faire pour se préparer un petit peu là ? Et pour éviter de se jeter, de se baffrer ce soir ?
Je pense qu'il faut faire une collation, dans ce cas-là, basse calorie. C'est-à-dire là, cet après-midi, à la limite, vous pouvez prendre un bol de fromage blanc, par exemple, agrémenté peut-être avec des fruits secs. Et ça va vous caler, ça va vous apporter des oligo-éléments, des minéraux. Et ça va offrir une satiété qui vous permettra peut-être de résister à tous les petits gâteaux apéritifs ou tous les biscuits,
etc. Vers 18h, je fais cette collation ?
Oui, par exemple. Et comme ça, ça vous permettra de tenir jusqu'au réveillon. Parce que sinon, vous risquez forcément, si vous passez à table à 22h, 23h pour certaines personnes, de craquer, c'est normal, hein, c'est physiologique.
Jimmy ?
Moi, j'adore le surimi. Est-ce que je peux en prendre et en manger beaucoup ou je risque de grossir un petit peu ? Non pas que j'ai quelques...
Il mange un paquet entier.
Voilà, oui. J'adore ça.
Non, Jimmy, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre du surimi. Le surimi, alors pendant longtemps, j'étais malvenu là-dessus parce que je pensais que c'était des déchets de poisson.
Bah oui, mais c'est pas ça. Du... Ah, mais oui, moi j'ai
non,
ça en tête.
C'est pas
ça
exactement
que, bon,
ça.
J'ai vu Jimmy qui parlait du surimi, j'ai dit, bon, oui. Il a des goûts de...
Non, c'est de la chair de poisson. C'est de la chair de poisson, généralement du merlan, je crois. Et donc, c'est agrémenté un petit peu d'une certaine saveur qui peut vous faire penser à des crustacés, etc. Mais une dizaine de bâtonnets de surimi sont tout à fait acceptables.
Oh oui, 10,
et ça,
ça
permet de caler. Voilà. Mmh,
d'accord. C'est vraiment risqué ces repas en famille. Là, c'est vraiment ceux où on se lâche le plus niveau calories à cette période de l'année.
On se lâche d'autant plus que Jimmy vient de parler de la vitamine D. Et il y a beaucoup de carences en vitamine D dans cette période et on a tendance à se rabattre vers des aliments qui vont doper un petit peu notre humeur. Vous voyez, parce que les jours sont courts. On est quand même dans les périodes de l'année où les jours sont les moins longs. Donc, on a tendance un petit peu à déprimer. Et qu'est-ce qu'on nous a inventé ? C'est des fêtes à répétition, gargantuesques et qui sont obésogènes, ces fêtes-là. Donc, oui, c'est des périodes à risque. Donc,
pour les gens qui perdent du poids en ce moment, qui sont un peu au régime.
Alors déjà, si vous arrivez à stabiliser votre poids, je trouve que déjà la mission est remplie. D'accord ? Donc, c'est peut-être pas le moment d'arrêter de fumer, par exemple, en période de fin d'année, par exemple.
Merci beaucoup, Dr Cocol. On n'en a pas terminé avec vous. Vous restez avec nous.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Arnaud Cocol, médecin nutritionniste avec qui on prépare aujourd'hui le menu idéal du réveillon de Noël. Un menu pas trop mauvais pour la ligne, mais savoureux, vous allez voir. Et donc, je crois que votre premier conseil, docteur Cocol, c'est de se lâcher sur les fruits de mer.
Oui, les fruits de mer, c'est vraiment notre allié, y compris minceur. Et faites-vous plaisir. Donc là, c'est la période des huîtres, c'est la période des moules, c'est la période des crustacés. Donc allez-y. Le problème, malheureusement, c'est l'accompagnement. Parce qu'il y en a qui vont rajouter des maillots.
Oui, c'est meilleur avec.
Alors, plutôt une vinaigrette, par exemple, avec les huîtres. Vous pouvez prendre ça, c'est pas trop mal.
Une vinaigrette avec les échalotes aussi,
voilà,
là,
c'est
tout
parfait,
ça
c'est parfait. Donc, mais n'alourdissez pas la note.
Un peu de beurre salé
pas le
sur
goût.
Une tartine, non ?
Non, puis je trouve qu'on masque le goût. Les fruits de mer se suffisent en tant que tels. L'huître, c'est l'un des aliments les plus fabuleux. Un jour, j'avais rencontré un chercheur qui m'avait dit qu'il y avait trois aliments pour lui les plus fabuleux qu'il aurait fallu emmener sur une île déserte. Si on est en panne, ça serait les œufs, les huîtres et le foie de veau.
Ah oui, d'accord.
Alors pour le foie de veau, ouais. Moi je repasserai, mais ouais. Les huîtres, vraiment, on peut en manger une douzaine, aucun problème.
Aucun problème. Alors c'est riche en zinc, c'est riche en sélénium, en calcium, c'est riche en phosphore, magnésium, etc.
C'est toute l'année qu'il faudra en manger,
du fer, ouais. Etc. Il y a peu de cholestérol, donc c'est quasiment inexistant. Donc allez-y sur les fruits de mer.
Et
donc,
les autres crustacés, type crevettes, gambas, tout ça,
c'est
aussi
très bien.
On peut y aller
bien,
aussi à fond.
Très bien.
On peut en manger à volonté.
Le tourteau, le crabe, tout ça, c'est excellent.
D'accord. Donc, bon, on va revenir un tout petit peu en arrière dans le menu quand même, parce que mettons le plateau de fruits de mer, c'est le plat. Mais on revient en arrière. En général, le réveillon, ça commence quand même par un apéritif. Donc là, c'est quoi le piège à l'apéro ?
Il y a des mots que je ne comprends pas. L'apéritif.
Ah oui, je ne mets pas. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, mais bon, moi, j'aime bien l'apéritif. Alors qu'est-ce que je peux manger à l'apéritif ?
Bon, à l'apéritif, il faut faire attention à tous les pièges, déjà, parce qu'avec le verre d'alcool, éventuellement la flûte de champagne, on va vous servir le petit canapé, etc. Mmh. Et ça, c'est le piège, parce qu'évidemment, on a faim.
À part si on s'est bourré de surimi à 18h comme Jimmy, là, on n'a pas faim. Donc
comme
c'est
Jimmy
bon.
Adore les surimi, allez-y sur le surimi, d'accord ? Envoyez-lui du surimi, d'ailleurs, c'est ça. Jimmy. Et donc, moi, je pense que la collation basse calorie, comme je disais, donc fruits secs avec fromage blanc, par exemple, ça peut permettre d'attendre un petit peu. Verre d'alcool, soyez prudent, c'est-à-dire qu'il faut mieux un verre étroit, type flûte à champagne, qu'un verre évasé, parce que vous risquez d'en mettre davantage dans le verre évasé. Mmh,
bien choisir le verre. Alors, si on reçoit, ça va, on peut choisir les verres. Par contre, quand on arrive chez quelqu'un, on ne peut pas lui dire « Tu peux me mettre un autre verre, s'il te plaît ?»
Alors, vous faites attention, évidemment, d'essayer de garder le verre le plus rempli possible, le plus longtemps possible.
D'accord. Et je crois que vous dites aussi que l'alcool en soi, bon, ce n'est pas terrible d'en boire trop, évidemment, ça on connaît, il y a des dégâts avec l'alcool évident, et puis parce que c'est très sucré, donc ça fait grossir, mais c'est aussi parce que gras et alcool, c'est le combo horrible, hein, c'est ça?
Oui, complètement, parce que l'alcool, n'oubliez pas, c'est un toxique, c'est l'éthanol. L'éthanol, l'organisme humain ne le tolère pas. Donc, notre alcoolémie baisse parce que la première chose que l'organisme va détoxifier, en fait, par le foie, par exemple, ça va être l'alcool. Donc, l'éthanol va être éliminé. Et ça va se faire au détriment, l'organisme est accaparé par ça, donc c'est au détriment du gras que vous allez consommer à côté, qui, lui, va être encore plus stocké, parce qu'il y a présent d'alcool.
Bah oui.
Donc, faites pas bon ménage avec les deux.
Jimmy ?
Justement, lorsqu'on parle d'alcool, est-ce qu'on peut mélanger les alcools, vin blanc, vin rouge, ou au contraire, il faut garder le même, toujours avec modération ?
Alors, toujours avec modération, vous faites bien de le rappeler, mais je pense qu'il faut mieux garder le même, parce que les mélanges sont très mal supportés au niveau du foie. Donc, on vous dit de garder le vin rouge du début à la fin, ou de... Bon, si vous avez pris une coupe de champagne, ça peut se concevoir, mais après, rester sur la même tonalité d'alcool que des mélanges whisky, la vodka, etc. Ben là, votre foie, il va rendre l'âme rapidement.
Après, c'est à l'eau gazeuse, c'est encore plus simple, hein, je crois. Mais
oui,
bon,
surtout si vous conduisez ou si vous avez un ami qui conduit.
Oui, n'oubliez jamais ça.
Ça, c'est très important, effectivement, c'est le moment de le rappeler. Il y a un instant, vous nous avez dit, bon, les fruits de mer, c'est génial. Pendant les fêtes, il faut se lâcher, on peut y aller. C'est pas calorique et en plus, c'est plein de bonnes vitamines, etc. Si j'imagine, si je sais pas, j'ai envie de servir un plateau de fruits de mer en plat principal, je l'accompagne de quoi, par exemple, à côté?
Ben, ce qui peut être bien, vous pouvez mettre des salades, évidemment. Alors, en Bretagne, on va vous mettre des salicornes, par exemple. Ça, c'est excellent.
Oui, alors là, on a zéro calorie quasiment sur tout le repas. Hein,
donc,
entre les algues
sinon,
et les,
oui,
les,
mais sinon,
et les coquillages, c'est bon.
Voilà. Mais prenez un féculent, prenez quand même des patates. Voilà, des pommes de terre.
Mais froides, vous m'avez dit, les pommes de terre.
Alors, froides, ça sera mieux au niveau biochimique et au niveau assimilation. Donc, vous aurez moins de shoot de sucre quand elles sont consommées froides que chaudes. Donc, c'est pareil, l'écrasé de pommes de terre, ça augmente l'index glycémique. Donc, ça vous fait un shoot de sucre.
Ah,
donc, il faut mieux
tout,
la prendre en robe de chambre, votre pomme de terre. Donc, et combiner. Ce qui est bien, c'est pas de faire un plat avec que des féculents. Il faut toujours marier avec des légumes et qu'il y ait des fruits également. C'est pour une question d'équilibre du pH.
Mmh.
Le pH, c'est l'équilibre entre les acides et les bases.
Donc, vous mettez quoi dans la salade de pommes de terre si je fais une salade froide, donc, parce que vous avez dit que c'était mieux
assimilé. Vous pouvez
assimiler.
Mettre un petit peu des légumes
donc,
à côté.
Vous mettez quoi vous, dans votre salade de pommes de terre, par exemple, docteur Cocolle?
Dans ma salade de pommes de terre, on peut mettre un petit peu des herbes. Je trouve des herbes aromatiques ou ça permet de réveiller un petit peu de goût et de faire en sorte que le plat soit moins monotone. Puis je vais agrémenter avec une salade. Moi, j'aime bien les salades, donc une grosse salade donc
verte.
Mais jouer après avec les épices toujours et avec les aromates que vous allez mettre, les huiles, la qualité de l'huile.
Ah, qu'est-ce qu'on prend comme huile, du coup, avec cette salade de pommes de terre?
L'huile de noix, qui peut être excellente, par exemple, qui donne une saveur, la noisette, tout ça, ça va donner une saveur particulière et ça apporte
des oméga-3.
Vous préférez
l'huile de noix que l'huile d'olive, par exemple?
Alors, l'huile d'olive, elle ne contient pas d'oméga-3. Donc, l'huile d'olive, c'est des oméga-9. Donc, on conseille un profil d'huile comme le colza, la noix, qui, elles, contiennent des oméga-3 qui sont excellents pour la santé et pour éviter les inflammations. Donc, si vous souffrez, par exemple, au point de vue articulaire, en plein hiver, avec le froid, etc., c'est bien d'avoir des anti-inflammatoires naturels que sont les oméga-3, par exemple.
Parfait. Écoutez, docteur Cocolle, on va continuer dans quelques minutes cette discussion avec vous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue nos conseils nutritionnels pour un repas de réveillon parfait, tant pour la ligne que pour le goût. On fera le point sur la traditionnelle dinde, bien sûr. Vous verrez qu'il y a des cuissons qu'il faut préférer pour que ce soit plus light. On évite de manger la peau, évidemment. C'est la partie la plus grasse, on vous dira pourquoi. Et puis, on vous donnera tout plein d'autres astuces pour ne pas exploser la balance non plus, tout en se faisant plaisir. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste. Alors, il y a quelques minutes, docteur, on a parlé des pièges de l'apéro pendant les repas de fête. On a parlé aussi des bienfaits des fruits de mer. Mais maintenant, on va passer quand même à la traditionnelle dinde de Noël. Alors, la viande de dinde en soi, c'est plutôt pas trop mal, non ? C'est pas très gras, la dinde, on est d'accord ?
Bon choix, Mélanie.
Ah, voilà, moi j'ai choisi la dinde. Je choisis la dinde chaque année. Ils en ont un peu tous marre autour de la table, mais bon, alors la dinde.
Oui, alors à moins d'être végane évidemment, mais la dinde a sa place traditionnellement. Évitez de manger la peau.
Alors, c'est le meilleur,
bon.
Docteur.
Bah oui, il y en a plein qui vont hurler quand ils vont entendre ça. Mais la peau.
Je vois Jimmy qui pleure tout de suite.
Attendez, oui, non, mais allez-y, parce que là je suis outré, mais je vous laisse parler. Vous êtes
pourquoi pas la peau alors ?
Mais ça concentre en fait toutes les matières grasses. Ah. Donc si vous prenez la peau, vous allez avoir un concentré de matières grasses juste en dessous. Et vous ne serez pas avec une viande maigre. La viande maigre, c'est vraiment la texture de la dinde.
Et le blanc de dinde.
Donc comme le poulet, si vous voulez, une bonne volaille. Mais la peau, évidemment que c'est bon au goût, etc. Ça apporte une saveur, etc. Mais ça alourdit nettement votre repas.
Ouais, donc, la facture calorique, elle est beaucoup plus importante.
La facture calorique sera plus lourde.
Jimmy, vous êtes dégoûté là, j'ai l'impression. Oui, vous adorez la peau de la dinde.
Oui, même dans le poulet, donc là, vous m'avez un peu...
Il mange que ça, lui, d'ailleurs, d'habitude. Il mange que la peau.
Et la peau. Voilà, voilà de quoi je me nourris durant les fêtes.
Ben, voilà, et donc là, c'est fini, vous arrêtez.
Mais si on veut... Non, mais attendez, parce que là, on parle de dinde. Mais si on veut la cuire correctement, c'est quoi la meilleure technique pour finalement aussi peut-être consommer un peu moins de calories ? Est-ce qu'il y a une façon de la cuire un peu plus efficace ?
Bah, il faut la cuire, je dirais, pas trop violemment aussi. Donc, c'est la cuire petit à petit. C'est-à-dire, il faut élever la température progressivement.
Je pense à basse température, longtemps peut-être.
Oui, oui.
Donc, c'est peut-être mieux chez le boucher de l'acheter directement.
Alors, ça serait mieux. Alors, ce que vous dites, c'est important parce qu'il y a les rôtisseries. Quand vous êtes chez le boucher, ils ont des systèmes de rôtisserie verticale. Donc, avec par émission réverbération, en fait, ça va dorer la volaille.
Donc, mais la graisse, elle tombe au fond.
Et la graisse, elle tombe au fond, exactement, Mélanie. Donc, c'est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sain, parce que les fameux hydrocarbures polycycliques, c'est-à-dire toutes les fumées, etc., que vous allez pouvoir avoir sur le barbecue l'été et l'hiver, quand vous faites cuire de façon trop malencontreuse et trop à feu vif, bah, votre viande qui va être noircie par moment.
Donc
par
vous nous proposez d'être plutôt un peu des feignasses et donc de ne pas de cuisiner. Quoi. On l'achète
oui,
toute
non,
prête et c'est meilleur pour la santé.
Il faut mieux l'acheter. Ah. Comme ça, en fait, vous faites travailler vos artisans du coin et c'est très bien.
Et là, on peut manger la peau à ce moment-là ou pas ? Vu qu'on a fait quelques économies de calories sur le...
Jimmy, vous tombez sur un nutritionniste qui est toujours dans la même posture. C'est-à-dire qu'il va vous dire non.
Non à la peau, même si c'est le boucher qui l'a fait cuire. Qu'est-ce qu'on pense ?
Je suis une exception une fois de temps en temps. Si vous aimez, ce n'est pas l'exception. L'exception fait la règle.
Merci ce soir, vous pouvez manger la peau de Jimmy. Qu'est-ce que vous pensez des gibiers aussi à Noël ? Souvent, on en consomme. Est-ce que c'est bon ?
Oui, alors les gibiers, moi je pars en Corse. Alors là-bas, en Corse, il y a beaucoup de gibiers. Mm-hmm. Il faut se méfier parce que déjà, la façon dont la bête a été tuée, tout ça, donc il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des contaminations quand même.
Mais niveau calorique, etc. C'est pas...
Au niveau calorique, c'est un peu plus lourd peut-être que le poulet et la dinde. Ça paraît évident. Après, le goût est quand même très prononcé, donc tout le monde n'aime pas le gibier, parce que c'est le sanglier, des trucs comme ça, ça va être des
viandes. Je crois que notre réalisateur, lui, l'aime bien, c'est lui qui m'a glissé le gibier,
oui.
Donc il peut continuer quand même pour la ligne.
Oui, non,
ça
non
va
il
pas
peut
le...
continuer, alors après ça dépend du morceau, ça dépend comment la bête a été nourrie aussi, tout ça, donc il y a des bêtes plus ou moins grasses. Donc le gibier, pourquoi pas, mais c'est vrai que la saveur est quand même très prononcée et tout le monde n'est pas amateur de gibier.
Alors qu'est-ce qu'on sert en accompagnement avec cette dinde là qu'on n'a donc pas fait rôtir soi-même ? Ça c'est pas la peine. Le plus équilibré, le meilleur pour la santé, le moins gras, c'est finalement de l'acheter chez le rôtisseur, chez le boucher. Donc, on met quoi à côté comme accompagnement ?
Je pense que les légumes ont leur place. Donc,
toujours les légumes.
Des poêlés de légumes, c'est peut-être intéressant, mais des poêlés de légumes que vous n'allez pas acheter comme ça, il faut mieux la faire soi-même. Voyez,
parce ça coûte que moins cher en plus ?
Ça coûte moins cher, puis c'est éviter tous les plats ultra transformés. C'est-à-dire, achetez pas une poêlée qui est toute faite,
congelée,
surgelée, voilà. Et vous allez avoir des matières grasses qui vont être ajoutées. Donc, le goût, en plus, c'est pas tellement au rendez-vous. Donc, les gens, ils vont pas trouver ça très appétant. Donc, il faut mieux que vous la fassiez vous-même et que vous agrémentiez toujours, je reviens, les herbes, les épices, parce que ça change un petit peu le goût et ça, c'est des exhausteurs de goût qui sont extrêmement puissants et très bons pour la santé.
Jimmy ?
Alors, moi, j'aime les surimi, la peau de la dinde et les champignons. Est-ce qu'on a le droit de mettre des champignons dans
la
poêle ? C'est light, hein, ça, non ? C'est
oui,
pas mal.
Jimmy, c'est très bien.
Mais les champignons.
Alors, les champignons, par contre, ça va développer chez certains d'entre nous une sensibilité particulière. C'est-à-dire qu'il y a des champignons qui sont très mal tolérés parce que ça dégage du soufre.
Lesquels, par exemple ?
Alors, le champignon de Paris, par exemple, des choses comme ça.
C'est donc, dommage, c'est son préféré avec le surimi, il met toujours quelques champignons de Paris.
Et donc, mais du coup, si ça dégage du soufre, on peut avoir quoi ? Des intolérances digestives ?
Alors, ça va être des flatulences. Ça peut être, alors, en période de réveillon, c'est peut-être pas très indiqué pour les autres convives.
Moi, j'accuse le voisin, donc ça c'est simple. Comme ça, c'est réglé. Je vous accuserai, vous, Mélanie.
Bien c'est ça. Heureusement, on ne fait pas le réveillon ensemble. Donc, dans la poêle, on met des légumes, des champignons pour Jimmy. On peut mettre des marrons aussi dedans ?
Des marrons, c'est très bien. Des châtaignes, ça, on peut mettre ça. Donc, tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime pas les marrons ni les châtaignes.
Mais d'un point de vue nutritionnel ?
Mais d'un point de vue nutritionnel, je trouve ça très bien.
C'est intéressant.
Oui. C'est tout à fait intéressant. Donc, pourquoi pas ? Et donc, si vous mettez un petit peu de féculent, on peut mettre après des patates, comme on a dit, ou du riz, des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes.
Mais quel est le mieux entre les patates et le riz ? Il faut choisir, parce que c'est parfois compliqué pour les enfants de manger des légumes. Et donc, souvent, moi, je propose des patates ou du riz. Donc, s'il faut choisir, est-ce qu'il y en a un qui est un peu mieux que l'autre ?
Moi, j'ai une préférence pour le riz. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes de riz. Donc, on peut jouer sur le riz de Camargue, on peut jouer sur le riz brun, le riz basmati, le riz thaï, etc. Donc, il y a différentes saveurs.
On peut le parfumer un peu, le riz aussi.
On peut le parfumer. Je trouve que le riz est vraiment l'un des aliments, pour moi, les plus intéressants et les plus complets qui existent sur Terre.
Jimmy, il mange que du surimi, vous mangez que du riz, alors. C'est ça.
Nous sommes des hommes simples, la Mélanie. Le caviar, le champagne, c'est loin de chez nous, tout ça.
Donc le riz, c'est très bien, mais on peut mettre un peu de beurre dedans quand même, pour que ce soit un peu plus festif, ou juste on le mange tout sec. Alors apéro, il ne comprend pas, beurre, il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous mettez dans votre riz pour qu'il ait bon goût quand même ?
Bien sûr, on peut mettre du beurre.
C'est Noël quand même, docteur.
Non, il faut en mettre, parce qu'il y a des matières grasses qui sont bonnes pour la santé. Les graisses saturées qui sont contenues dans le beurre, oui, c'est bon pour la santé, dès lors que vous n'exagérez pas. Donc, il faut à peu près la teneur d'une petite tablette de beurre. Moi, je dirais, vous savez, les 12 grammes, les petites tablettes d'hôtel.
Les mini, voilà. Oui, d'accord.
Donc, vous dépassez pas ça.
C'est pas mal quand même, c'est une bonne dose.
Voilà, c'est correct.
Pour un repas entier ? Ça me semble un peu radin, non ? Faites quand même quelques efforts, là. Je sais que vous êtes nutritionniste.
Un repas de Noël, en plus.
Un repas de Noël, un petit truc de beurre, là, franchement. J'avais ça à la maternelle, moi, pas à 32 ans.
Vous voyez à quoi je soumets mes patients, Jimmy ?
Ah oui, là, ils sont courageux.
Alors bon, on a mangé la dinde, on a mangé la poêlée de légumes avec éventuellement, même un peu de riz à côté en plus. On va passer au fromage. Alors bon, est-ce que ça fait pas trop ? Parce que déjà, on a fait l'apéro, l'entrée, le plat. Est-ce qu'on peut quand même se permettre un petit plateau de fromage à Noël ? C'est possible ?
On peut se permettre du fromage, mais si vous mangez du fromage, c'est très acide au point de vue pH. Ce n'est pas acide au goût. Quand on parle d'acidité, c'est le pH. Et dans ce cas-là, il faut faire comme dans les restaurants, c'est-à-dire que vous avez le morceau de fromage qui vous est servi avec une petite salade, donc salade avec des fruits secs, des noix, des noisettes par exemple, des cerneaux de noix, c'est très intéressant au point de vue nutritionnel, ou alors vous associez avec une grappe de raisin.
Ah bon, pourquoi ?
Donc c'est très bien.
C'est
aussi,
bon,
ou
en
des
plus,
abricots
le
secs.
Fromage avec sucré salé comme ça, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal du tout, et c'est ce qu'on fait dans certains restaurants, et point de vue diététique, c'est parfait. L'équilibre, il est nickel, parce que vous apportez des bases, c'est-à-dire des éléments qui sont riches en bicarbonate, et vous apportez des acides qui sont
donc
contenus,
les acides, c'est le fromage,
aminés,
les bases, c'est le fruit
ça,
ou
ça
la
va
salade.
Ça va être les légumes, les fruits, les salades, c'est ça les bases. Et donc équilibrer toujours comme ça.
Il y a des fromages qu'on devrait choisir plutôt parce qu'ils sont moins grossir ou pas ?
Non.
Sur mon plateau, je peux mettre un camembert,
De toute façon, les fromages, quand vous êtes à les pâtes dures, par exemple, c'est 50% de matière grasse. Donc, c'est 50% réellement. Ce n'est pas du fromage blanc. Donc, l'affichage en matière grasse est celui vraiment que vous ingérez. Donc, il ne faut pas en abuser, c'est toujours pareil.
Vous voyez, Jimmy, vous n'avez pas beaucoup de beurre, mais vous pouvez prendre à moitié le fromage.
Mais là, ça commence à faire pas mal en termes de consommation de sel, non ? Ce n'est pas une période, justement, où il faut qu'on fasse attention à des personnes qui auraient des pathologies cardiovasculaires. C'est le moment où nous, on voit des œdèmes pulmonaires, parce que crustacés, on oublie qu'il y a du sel, le fromage, et pour un peu qu'on rajoute un peu de pain. Et là, on peut vraiment faire attention, du coup, et on va déborder, non ?
Très bonne intervention, Jimmy.
Je vous remercie.
Il est vraiment docteur, c'est fou.
Et c'est pour ça qu'il faut associer les légumes et les fruits. Parce que toujours, c'est le côté basique. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des aliments qui vont vous apporter beaucoup de potassium. Donc, ce que vous dites, c'est les aliments qui apportent du sodium. Donc, à côté, il faut temporiser avec des aliments qui apportent du potassium pour que la balance soit...
Ah, on peut compenser, du coup, en quelque sorte, cet excès.
Donc, voilà, pour compenser l'excès de sodium dans notre alimentation, de chlorure de sodium, il faut compenser avec des apports de bicarbonate de potassium. Donc, le potassium, vous allez l'avoir dans les fruits, dans les légumes. Donc, toujours combiner les deux, marier les deux types d'aliments, c'est très bien.
Et le fromage, alors vous avez dit, ok, on n'en mange pas trop, quoi, genre un ou deux petits morceaux, c'est ça, en portions, ça fait combien,
oui,
vous conseillez?
Après, vous êtes à... dépassez pas 50 grammes, je veux dire. C'est
50
déjà,
grammes, ça représente
c'est un
bon
morceau, déjà.
Beau morceau,
là,
oui.
Je suis généreux, là, voilà. Parce, que
ah,
c'est,
oui, là,
parce que c'est le réveillon.
D'accord.
Généreux, 50 grammes, je veux pas dire, c'est comme le beurre, là. Hein. Oui, pour le petit truc de beurre, maintenant, moi, c'est une demi-baguette, au moins.
Ah voilà, alors lui, il parle de pain, on est d'accord, parce que le piège avec le fromage, c'est le pain. On fait quoi? On l'oublie, le pain, du coup?
Alors, ou... pain, fromage, très mauvaise association. Association typiquement française.
Et oui.
Mais c'est pas une bonne association, toujours pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire les bases, toujours.
Donc
les
on en
acides.
Prend, on n'en mange pas de pain du tout, c'est difficile. Hein.
Alors, si vous prenez du pain, dans ce cas-là, il faudrait prendre à la limite toujours cette feuille de salade à côté où c'est.
Alors, on
cette
a compris, la
raisin.
Salade, on la mettra, vous inquiétez pas,
voilà.
Elle sera sur la table du réveillon, à côté des surimi voilà. Pour Jimmy, on mettra la salade. Voilà. Mais par contre, le pain, on le choisit comment alors pour limiter
si
les dégâts?
Il y a beaucoup de féculents aussi, évitez de manger du pain parce que ça fait beaucoup. Là, vous allez, avoir, vous allez être en pleine digestion.
Non,
après,
on n'aura plus
pain,
faim en tout cas ce soir-là.
Voilà, mais prenez après du pain aux noix, prenez du pain un petit peu plus travaillé.
Un pain un peu marron, pas une baguette quoi.
Vous avez compris, il ne faut pas que la mie soit blanche. C'est un
bon
truc
pourtant.
Ultra raffiné, oui, ça dépend lesquels, mais ultra raffiné, c'est pas terrible. Donc il faut une farine, plutôt les T80, etc., qui sont intéressantes, c'est-à-dire les mie un peu marron.
Ouais, mais on en mange moins du coup.
On en mange moins parce que c'est meilleur pour la santé.
J'allais dire parce que c'est moins bon.
Bah oui, je suis d'accord. Mais vous m'avez dit qu'il était très sympa ce nutritionniste, oui. Qui serait très cool et qu'on pourrait passer un bon réveillon. Ouais. Mais là, je commence un peu à être stressé. Alors, si on parle de la bûche, ne me dites pas que la bûche, on n'y a pas droit.
Mais
on peut prendre une bûche
venez.
Avec grand plaisir. Mais la bûche, c'est possible, on peut.
Oui, oui, oui.
Mais quoi comme bûche?
Alors, bûche pâtissière ou bûche glacée, c'est toujours le dilemme. Donc.
Jimmy prend les deux.
Vous me connaissez bien, Mélanie.
Alors, la bûche glacée, vous aurez de toute façon du gras dans les deux cas, parce que la bûche pâtissière, vous aurez du beurre, des matières grasses, et la bûche glacée, vous allez avoir du sucre et de la graisse également, puisque vous allez avoir des produits laitiers dedans. Donc, c'est du lait entier, etc. Mmh. Bon, alors, toujours avec parcimonie.
Il y a des fruits parfois, il y a des vitamines. Donc...
Oui, oui. Alors là, vous allez chercher au microscope électronique. Hein.
Bon, moi je la prends en fruits pour me dire c'est moins grave, mais non, c'est pas terrible alors.
Non, mais faites-vous plaisir, parce que bon, après, sachez quand même qu'on approche de la galette des rois, donc ça va être une période fatale aussi.
Ça, je crois que c'est mon gâteau préféré, on en reparlera au mois de janvier.
Je suis en danger pour le mois de
janvier. J'adore la galette. Donc la bûche, ok, mais vous dites plutôt choisir vraiment une bûche de qualité, hein, donc c'est ça. Vaut mieux mettre le prix, l'acheter plus petite, quoi, du coup.
Faites attention à ça, parce qu'il y a des gens qui vont se précipiter sur des trucs industriels qui n'ont pas de forme, etc. Quand vous regardez la liste des ingrédients qui est affichée, c'est un drame. Donc, privilégiez peut-être votre pâtissier du coin, etc. Et mettez un peu plus le prix pour avoir une meilleure qualité, tout simplement. Mmh. Donc, vous en prendrez moins, mais elle sera meilleure.
Et avec une petite salade de fruits à côté, non?
Salade de fruits est très bienvenue.
Ah, ça, j'ai le droit, hein, c'est sûr.
Ah oui, oui, salade de fruits. Donc, rajoutez pas de sucre dans la salade de fruits.
On ne met pas une boule de glace à côté de la bûche.
Bah oui, c'est...
Là, vous abusez, Mélanie. J'essayais un peu d'être
non,
de votre
moi,
côté.
Noël, mais là, c'est nos limites. Hein, donc...
La boule de glace, vraiment, à côté de la salade de fruits?
Si, non, mais parfois, c'est un peu sec, comme ça.
Je savais pas qu'on revivait le film de Marco Ferreri, la grande bouffe.
Non, mais si c'est un sorbet, ça passe mieux, non? Il y a des fruits, encore une fois. Bon, alors, d'accord. La bûche, d'accord, pas de glace, un petit peu de
non,
fruits à côté.
Sorbet et glace, vous savez, c'est toujours le dilemme, parce que c'est une bonne intervention, parce qu'il y a des gens qui me disent « je vais prendre du sorbet ». Mais je leur dis « vous avez pris plus de sucre, parce que là, c'est du sucre, et la glace, c'est du gras ». Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux? On abuse quand même du sucre et je pense que les sorbets, c'est pas mieux que la glace. Hein. Donc, si la glace vous fait plaisir, prenez plutôt de la glace.
Bon, d'accord. Alors, merci, docteur Coquel. Vous nous avez donné plein de conseils pour ce soir, je dirais. Mais le repas du réveillon, il approche, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que surtout quand on a une grande famille, eh bien, parfois, c'est rebelote le lendemain, le surlendemain. Comment on gère ce marathon de repas, là?
Alors déjà, je pense qu'on ne doit pas être dans la grande bouffe, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que vous devez savourer. Donc, prenez des aliments de qualité. Donc, mettez le prix. Si vous prenez du foie gras, bah, prenez un bon foie gras. Prenez pas un truc industriel de bas prix. Parce que, je veux dire, pour manger correctement, il faut mettre le prix. Et, quand vous voyez des prix au taquet, au plancher, je veux dire, il faut se poser quand même la question de la composition de l'aliment.
Et manger moins aussi, parce que quand ça coûte cher, bah, on prend un peu moins, mais on mange un peu
complètement.
Mieux.
Et mastiquer, ça, c'est mon cheval de bataille, c'est prenez du temps pour manger, donc savourer. Donc faites des pauses pendant le repas, etc. Il y a le trou normand aussi, c'est pas mal de temps en temps, vous savez, on fait une pause. Donc il y a l'ouverture en bouche, etc. Et de temps en temps, on fait une pause. Pourquoi pas prendre une petite poire, vous savez, comme on fait dans certains restaurants.
Non, l'alcool.
Et ça permet. Mais l'alcool, il ne faut pas en abuser, on répète.
Hein. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur Coquel, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier bouquin, hein, c'est L'acheter du lest chez Flammarion. Alors grâce à vous, on a toutes les clés en main hein, pour que ce réveillon soit festif ce soir et pas trop la cata non plus niveau kilo ensuite. Je vous souhaite à vous aussi un bon réveillon. D'ailleurs, vous allez manger quoi, vous, ce soir ?
Ben, ce soir, je pars en Corse, donc je vais manger des fruits de mer, parce que je suis à côté de l'étang d'Urbine, donc il y aura des huîtres, il y aura des moules, etc. Et donc, toutes sortes de fruits de mer qui sont un véritable régal. Et après, salade, etc. Il y aura certainement une bûche, quand même.
Beau programme, merci beaucoup. Merci encore, Dr Cocol.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux aphtes. Pourquoi en a-t-on parfois ? C'est le cas de presque 2 Français sur 10, au moins une fois dans sa vie. Y a-t-il des aliments qui donnent plus de risques d'aphtes ? Par exemple, on vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des aphtes. Pourquoi en a-t-on parfois dans la bouche ? Savez-vous quels sont les aliments qui en provoquent le plus ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
J'ai jamais fait d'aphtes.
Je crois que c'est des aphtes quand je mange trop de noix, je crois.
De temps en temps, quand je mange des kiwis.
Quand je suis stressé, il y a beaucoup plus d'aphtes qui apparaissent.
C'est un bouton à l'intérieur de la bouche.
C'est une irritation, non ?
Des espèces de rougeurs qui apparaissent, un bouton.
Ouais, on sent que ça arrive. Au début, ça gratte. Et après, au fur et à mesure des jours, ça commence à piquer.
On sent qu'il y a un petit picotement, on a envie de mordiller dessus. Et surtout, il ne faut pas le faire parce que après, ça peut aggraver.
On a l'impression, hein, c'est l'image que ça renvoie, d'avoir un cratère de volcan.
Bah, je fais attention à mon choix de partenaire pour pas avoir d'aphtes dans la bouche.
J'associe ça toujours. À tout ce qui est bisous, etc., fricotage avec des copines, quoi.
Bon, ça se transmet pas, un aphte, c'est pas un virus.
Ça finit par passer, je pense.
Ah bah, ça fait mal, un aphte, ça fait mal. Il faut le soigner avec du citron.
C'est une recette de grand-mère, hein, c'est-à-dire jus de citron bicarbonate avec un peu de vinaigre.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de remède miracle contre les aphtes, à part attendre que ça passe.
Je prends des petites crèmes, en fait, qui anesthésient un petit peu au niveau des aphtes.
C'est pas éternel et ça part assez vite, donc je pense qu'on peut s'en remettre.
Waouh, du citron, du bicarbonate dans la bouche pour en finir avec les aphtes. Je pense que c'est bien pour décaper les muqueuses, non ?
Oui, c'est un micro-trottoir de haute qualité. Malheureusement, aucun médecin n'était dans l'assemblée, apparemment, parce qu'on a bicarbonate, oui, pour les meubles.
Voilà, le citron, c'est super pour le ménage, effectivement.
Ouais, mais bicarbonate, oui, il a raison. Les bonnes bouches de bicarbonate peuvent aider, mais rajouter du citron et du vinaigre...
C'est un peu acide, là, tout bon ça. Courage. Bon, alors, Jimmy, on va reprendre du début quand même. Les aphtes, d'abord, c'est quoi un aphte dans la bouche précisément ?
Alors, c'est ce qu'on appelle une ulcération bénigne qui se trouve en règle générale à l'intérieur des joues. Les aphtes, ça touche plutôt les enfants et un peu moins après 50 ans. Et on sait qu'initialement, ça commence par une petite tache rouge qui est plutôt douloureuse et qui se transforme rapidement vers une ulcération. Ça mesure entre 2 et 10 mm et ça présente un fond qui est plutôt jaunâtre ou grisâtre, donc pas très joli. Mmh. Et surtout, c'est très douloureux et il y a un bord net qui est plutôt rouge. Et attention, un aphte ne saigne jamais.
Ah bon ?
Si ça saigne, ce n'est pas un aphte. Mmh. Ça peut être une atteinte des muqueuses, une atteinte de la gencive, une infection dentaire, mais un aphte ne saigne jamais. Et puis, ça peut être provoqué par un mauvais brossage de dents. Et parfois, on en a 5 à 6 d'un coup. Et donc, ils ont des petits copains qui poussent l'un à côté de l'autre.
Ah oui, sympa, ça fait mal, effectivement. Alors, vous avez dit que les aphtes, en général, c'est à l'intérieur des joues. Mais on peut pas en avoir aussi sur la langue, il me semble.
Oui, exactement. Ça touche toutes les muqueuses. Et donc, ça peut toucher toute la sphère ORL. Et donc, on peut en avoir à l'intérieur des lèvres et des joues, on en a parlé. On peut en avoir sur la face intérieure et inférieure de la langue. On peut en avoir sur le plancher buccal, c'est-à-dire sous la langue. Et on peut en avoir parfois au niveau des gencives et des palais. Mais dans ces cas-là, ça s'intègre généralement dans une infection virale.
Ah, oui,
l'aphte classique ne touche pas, en règle générale, les gencives ni le palais.
D'accord. Alors les aphtes, on est d'accord. Par contre, c'est généralement bénin, hein, c'est sûr.
Oui,
hein.
Et il y a une auditrice qui nous a dit que ça guérissait spontanément. Et c'est vrai qu'on sait qu'en 8, 10, 15 jours, globalement, ça disparaît. Et tout ce qu'on propose à côté, ce sont des mesures de confort qui vont un peu limiter la douleur, mais ne vont pas avoir d'impact sur l'évolution de l'aphte. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose à faire.
Et ce n'est pas contagieux, on est d'accord. Il y en a un qui disait que ça s'attrape avec des bisous. Non, pas du tout.
Ce n'est
pas le bouton de fièvre.
Non,
pas
non, un aphte n'est jamais contagieux, sauf si on parle de gingivostomatite herpétique.
Oh là là,
notamment chez l'enfant.
Là,
mais c'est une maladie virale, exactement. J'étale ma science, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et donc là, je l'étale beaucoup. Et donc la gingivostomatite herpétique, c'est une infection virale qui, pour le coup, est contagieuse et donne des aphtes dans la bouche et de la température. Donc si vous avez des aphtes et de la fièvre, c'est que vous avez une infection et là, vous êtes contagieux en revanche.
Alors, c'est pas contagieux, on a compris, mais pourquoi il y a des gens qui en ont tout le temps et puis d'autres qui en ont jamais ?
Alors, on pense qu'il y aurait peut-être un facteur héréditaire. Ça mange pas de pain de dire ça, mais.
On dit ça pour tout.
Voilà, donc ça va. Mais c'est souvent provoqué par des petites lésions, notamment à l'intérieur de la bouche. Et souvent, on peut accuser la prothèse dentaire qui serait mal ajustée.
Ah oui, on se blesse.
Exactement, qui entraînerait des petits frottements. Ou lorsqu'on utilise sa brosse à dents de façon un peu trop énergique, parce qu'on crée des micro-lésions. Ou si on a certains tics, notamment de se mordiller la joue.
Il y a des gens qui se mordillent les joues, là.
Ah oui,
comme ça,
et donc ça survient aussi dans des moments de stress ou de fatigue. Et on sait que certaines allergies ou sensibilités alimentaires peuvent entraîner des aftes. On sait que certaines personnes qui seront allergiques ou sensibles au café, au chocolat, aux œufs, aux noix, au fromage ou des éléments acides pourront avoir des aftes. Enfin, on sait que lorsqu'on arrête de fumer,
mais c'est une bonne nouvelle d'arrêter de fumer.
Exactement.
Mais
ça peut donner des aftes. C'est transitoire et rassurez-vous, vous serez en bien meilleure santé en ayant arrêté de fumer.
On aura peut-être un peu des aftes, mais ça ne dure pas longtemps. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la libido masculine quand elle est en berne. Est-ce forcément le signe d'une lassitude dans le couple, un homme avec moins de désir? Est-ce forcément un homme moins amoureux? Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à toi les deux.
Alors aujourd'hui, jour de réveillon de Noël, on va essayer de répondre à une question, alors qu'il n'y a pas forcément de Noël hein, d'ailleurs, mais la question de Nathan, 31 ans, je vous la lis. Je n'ai pas envie de faire l'amour tous les jours, est-ce normal Catherine? Alors Nathan, il n'y a pas envie de faire l'amour tous les jours, mais c'est pas un problème, non? Enfin, je vois pas pourquoi on pose cette question, en fait.
Bah peut-être parce qu'il est inquiet par rapport à son idée de virilité. Mais encore une fois, la sexualité ne donne pas lieu d'occuper toutes nos pensées et toutes nos journées. De même, la sexualité n'est pas comme toutes les autres fonctions que sont respirer, manger, uriner, déféquer.
Ça, on est obligé.
On est obligé et on meurt sinon. La sexualité, non, elle peut tout à fait s'accommoder, notamment de faire ses emplettes pour Noël et de ne pas être en train de faire l'amour, par exemple.
Alors, parce que finalement, c'est une question. Alors, c'est un homme, Nathan, mais pourquoi les hommes, ils croient tout? Enfin, ils croient toujours. Je schématise, pardon. Je ne parle pas de vous, Jimmy. Il y a un homme dans le studio, attention. Mais il y a beaucoup d'hommes qui croient que c'est un peu une obligation, quoi, tous les jours. Mais non, en fait, pas du tout.
Bon, je pense que si. D'abord, non, évidemment. C'est toujours cette idée de la virilité qui est toujours mesurée au nombre d'heures.
À la fréquence,
au nombre d'heures des réactions.
Au nombre d'heures d'érection, il y en a vraiment qui font des ordres.
Non, mais c'est une plaisanterie.
Ah, d'accord.
Mais le truc, c'est que je pense que cette question, elle raconte autre chose. C'est que il s'inquiète. Il s'inquiète parce que non seulement il n'a pas envie de faire l'amour tous les jours, mais certainement il est sollicité et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à répondre à une sollicitation. Et du coup, évidemment, la question de la normalité est importante pour lui, pour pouvoir justifier du droit, lui aussi, sans pour autant devenir une femme, comme on peut imaginer que les femmes, elles, pourraient en avoir pleinement le droit. Ce qui est quand même assez curieux.
Jimmy,
est-ce que les périodes de Noël, c'est pas quand même une période où on aurait plus envie de faire l'amour, puisque c'est une période festive, qu'au moment, je sais pas, de payer ses impôts, la taxe d'habitation ou autre? Est-ce qu'on n'est pas plus réceptif à ce moment-là?
C'est cadeau, allez.
Je vous rappelle que la période d'honneur, c'est surtout la période des enfants. Alors là, pour le coup, on remet les enfants dans le couple.
Et tout ça.
Ah oui,
et
là, donc, vous avez plombé l'ambiance. Là. Ça y est, là, c'est de le dire.
Si on a envie de se mettre sur ce truc-là, je pense que les enfants aient leur liste longue comme le bras de cadeaux. Eh bien, c'est certainement très, très difficile de mêler sexualité, plaisir, liberté, vacances, dans de telles conditions. Non, mais sans toute plaisanterie mise à part, je pense qu'il n'y a pas de période où c'est plus simple. On pourrait dire quand on est détendu, quand il n'y a effectivement pas le stress des impôts ou de la vie active. Mais la réalité, c'est que c'est aussi un stress le moment où enfin il y a de l'espace, parce que ce qui ne se passe pas se voit d'autant plus. Et souvent, c'est encore plus anxiogène dans des périodes de fête.
Pour rassurer un petit peu Nathan, qui nous dit « donc j'ai pas envie de faire l'amour tous les jours », on peut peut-être lui dire, alors admettons qu'il est hétérosexuel, puisque d'ailleurs, c'est pas précisé, les femmes, même les hommes, les autres hommes, n'ont pas envie non plus de faire l'amour tous les jours. Il faut peut-être le rassurer. Il n'est pas tout seul à pas avoir envie de faire tous les jours.
Ah bah évidemment. Évidemment, bien sûr.
Il y a peu de femmes d'ailleurs qui ont envie de faire ça tous les jours, non, je pense?
Non, il y a des femmes qui adorent faire ça tous les jours. Mais encore une fois, de quoi parlons-nous? De quelques minutes, de plusieurs minutes, de quelques heures? C'est plus de la même chose. Vous voyez, je crois qu'il y a des gens qui le font pas tous les jours, mais qui le font plus longuement. Il y a des gens qui le font tous les jours, mais c'est plutôt une histoire de quelques petites minutes. À chacun de voir son rapport à l'érotisme et ne pas confondre érotisme et hygiène.
Dimi.
Et Nathan, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir plus envie, tout simplement?
D'abord, se poser la question si la relation dans laquelle il est celle qui lui convient, hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui ont abîmé un petit peu son rapport à lui-même et la sexualité parce qu'une relation est en difficulté, et que ne pas faire l'amour, c'est aussi une façon d'opposer quelque chose à l'autre. Veiller aussi, parce que là encore, la sexualité, elle a besoin qu'on soit en bonne santé. Et sans bonne santé, notamment si on a, par exemple, des neurotransmetteurs que sont la sérotonine, la dopamine, qui sont dans les chaussettes, même si ce ne sont pas les hormones de la sexualité, il n'y a aucune chance qu'on puisse avoir un élan, si ce n'est un élan mu par l'anxiété et le besoin de s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un et chercher un câlin pour se rassurer, mais sinon il n'y a pas de sexualité. Donc je crois que sa question est intéressante au-delà de la relation, si la relation va bien, c'est de se dire comment je vais moi. Si je suis un peu déprimé ou dépressif, il ne faut pas m'attendre à avoir du désir sexuel. Et on oublie trop souvent de regarder cet aspect-là. On parle toujours de pratique de sexualité, de qualité de couple, de nécessité de faire un peu son jogging sexuel, alors que quand on n'a pas beaucoup de ressorts dans le corps parce qu'on manque de dopamine et notamment de sérotonine, il ne faut pas imaginer une seule seconde que tout d'un coup, on puisse, alors qu'on est déprimé tout au long de la journée, et tout d'un coup, on serait wouhou, dans une liberté absolue sur ce domaine. Pas du tout.
Merci beaucoup Catherine.
Et ça, c'est normal.
Pour tous ces conseils, et donc vous nous avez encore une fois bien rassurés. Voilà, c'est la fin de cette émission. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, ce n'est pas parce que c'est Noël qu'on ne peut pas parler de sexe. Aujourd'hui, je reçois le dessinateur Zep qui évoquera son dernier album Happy Sex 2. Alors attention, il dessine Titeuf, ça c'est pour les enfants, mais Happy Sex 2, c'est clairement réservé aux plus de 18 ans. A tout de suite, ma coquine.
Un programme très sympa Mathieu, comme tous les jours, on va écouter ça avec grand plaisir et vous aussi, restez sur Europe 1.